Salut, salut à toutes et à tous et bienvenue, c'est l'émission L'eau à la bouche qui vous emmène en ce mois de mai 2012 au bord de la mer Méditerranée à Sète. Nous vous proposons ce mois-ci une rencontre entre poète et pêcheur enregistrée en juillet 2011 à Sète à l'occasion du festival de poésie Voix vive de Méditerranée en Méditerranée, une passerelle entre les marins tournés vers d'autres rivages de la Méditerranée et la parole des poètes venus de toutes les rives du bassin méditerranéen. Avec dans cet entretien Monsef Gachem, poète tunisien, et Raphaël Albano, pêcheur de l'Amparo à Sète, une présentation de Georges Drano. Bonne écoute.
Cette séquence poète-pêcheur, on l'avait déjà essayé un peu l'an dernier, avec quatre rencontres. Et cette année, on a souhaité pérenniser cette rencontre, puisque on voudrait profiter de l'expérience des pêcheurs sétois, qui est importante, et puis de la présence de poètes. Et le poète qu'on attend s'appelle Monsef Gachem, c'est un poète tunisien, et qui est le descendant, si je puis dire, de toute une génération de pêcheurs. Donc, d'où l'intérêt de faire se rencontrer les deux rives de la Méditerranée avec des souvenirs peut-être qui vont se ressembler. Alors, Monsieur Albano, donc vous êtes originaire de, votre famille est originaire d'Italie, comme beaucoup de pêcheurs sétois, de Gaeta exactement, une ville qui se situe à 60 km au nord de Naples, une très belle ville côtière avec aussi des bateaux de pêche, des bateaux militaires, c'est un port militaire, un attrait touristique important. Alors, je vais vous poser les questions que je vous ai déjà posées quand on s'est rencontrés. Alors, est-ce que vous voulez nous rappeler comment se sont passés vos débuts de pêcheurs?
Eh bien, mes débuts de pêcheurs se sont passés déjà au départ. Nous sommes une famille de pêcheurs, père en fils. Quand j'ai cessé l'école, moi, ma décision, c'était d'aller à la mer. J'ai toujours rêvé d'aller à la pêche. Hein. Et j'ai débuté sur un chalutier en 1942. Je suis resté environ un an et en 1943, quand les Allemands sont rentrés en France, ils sont débarqués à Sète aussi. Ils ont mobilisé tous les chalutiers. Et en 1943, il n'y avait plus de chalutiers à Sète, ça fait qu'on était sans travail. Et chose paradoxale, là, tous les Sétois étaient obligés de trouver du travail. Et la plupart, comme moi aussi, j'ai travaillé pour les Allemands à la carrière Le Py là-bas pour la construction du tunnel qui est toujours là-bas, aussi en face de Montière Le Py, et qui est devenu une champignonnaire. Après, en 1944, les Allemands nous ont fait partir de Sète. Nous sommes allés dans une zone de resserrement qui est partie dans le Tal, qui est partie dans l'Aveyron, où nous sommes partis dans la Sèbe. Et de là, j'ai travaillé dans une usine, ça s'appelle l'usine du Midi. C'est une usine qui fabriquait de l'alcool. Et puis en 1945, quand nous sommes revenus, nous avons trouvé notre ville en piteux état, quoi. La promenade Jean-Baptiste Marty était toute en ruine. Et les deux seules maisons qui restent, disons, là où nous nous trouvons en ce moment, c'est parce que quand les Allemands sont partis, ils avaient miné le quai en bas, comme tous les quais de Sète ont été minés. Et il y a les deux bombes qui étaient juste devant chez nous, les deux bombes n'ont pas explosé. C'est pour ça que ces deux maisons, le 14 et le 15, celles que nous avons la mitoyenne, là, ces deux maisons-là sont restées intactes. Hein. Enfin, il a fallu quand même, elles ont été très endommagées. Il a fallu les reconstruire, les pétasser, quoi, comme on dit. Hein. Et c'est les deux seules maisons qui sont restées, voilà. Et puis, en 1954, là, ça a été la reconstruction qui a reconstruit tout le...
Mais alors, quand vous avez débuté la pêche c'était sur un chalutier, alors. Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'ai débuté la pêche en 1942, j'avais alors 15 ans. Sur un chalutier, j'étais embarqué comme mousse.
Et quel était le rôle du mousse?
Le rôle du mousse, c'était celui qui, on appelait ça l'ougaine d'abouche. Ça veut dire toutes les anglades, c'est lui qui le recevait quand quelque chose se passait mal, voyez. En terme italien, on appelait ça l'ougaine d'abouche. Ça veut dire c'est lui qui recevait tout.
Mais voilà. Vous aviez un travail particulier à faire quand même en tant, comme mousse, non?
Non, non, eh bien, j'aidais à faire la cuisine aux cuisiniers, c'est moi qui lavais les paillots. Les paillots, c'était les planches qu'il y avait qui servaient de parquet sur le bateau. Je faisais la vaisselle, hein. Je donnais la main, enfin, quand le comment? Je crois qu'on parle à moi. Quand le marin il a besoin de quelque chose, de l'eau, il disait au mousse, va me chercher la moque d'eau. La moque d'eau, c'était pour boire, vous voyez, là. Va me chercher ici, va me chercher là. On faisait le commissionnaire à bord. Mais c'est là que j'ai débuté. Et je suis resté un an, là, comme je vous ai dit, après.
Mais on apprend quand même quelque chose quand on est mousse, quelque chose de
oui.
La pêche ou quoi?
Ah, ben oui, énormément.
Parce que là, vous parlez de travaux domestiques un peu, quoi. Mais...
Oui, oui, mais on apprend énormément. Oui. On apprend énormément le matelotage. Vous voyez que maintenant, oui. Ça n'existe plus. Oui. Autrefois, on faisait des pissures, on faisait des trucs de matelotage, quoi. Il y avait encore la voile à ce moment-là.
Ah, oui.
Alors, il fallait savoir coudre la voile, il fallait savoir faire pas mal de nœuds, il fallait savoir faire pas mal d'épissures, il fallait savoir coudre.
Et vous appreniez ça.
Maintenant, on apprenait ça sur le
bateau. Sur le bateau. Oui.
Sur le bateau. Déjà au départ, on a pris des leçons à l'école d'apprentissage maritime,
oui.
Et on finissait de se faire. Déjà, mon frère qui est né à bord de ces bateaux-là, il m'a toujours dit que pour faire un bon marin, il fallait sortir des bateaux bœufs. Les bateaux bœufs, c'était les bateaux à l'époque que je vous dis.
Oui.
Si on ne sortait pas des bateaux bœufs, on ne voulait pas un bon marin, parce que là, c'est là qu'on apprenait tout le matelotage.
Alors, tout le monde ne sait sans doute pas ce que sont les bateaux bœufs.
Les bateaux bœufs, ce sont des bateaux qui traînaient le filet à deux, comme les bœufs traînent la charrue.
Et ils avançaient en parallèle.
En ce moment, ce sont des chaluts, mais au départ, c'était des bateaux bœufs. Ils travaillaient à deux, c'est-à-dire qu'ils traînaient le filet. Le filet, qu'est-ce que c'est? Ils traînaient le chalut. Le chalut, c'est un filet qui a deux bras. Comme ceci, là, vous voyez.
Oui.
Alors, il faut un qui le traîne d'un côté, un qui le traîne de l'autre. Comme les bœufs, ils traînent dans la charrue.
Oui, oui.
C'est pour ça qu'on appelait ça les bateaux bœufs à l'époque. Et puis, après la guerre, alors, ils sont venus les chalutiers. Alors, on a inventé les panneaux qui servaient à écarter le filet, dont il n'avait plus besoin de tirer le filet, un d'un côté, un de l'autre.
Oui.
C'était les panneaux qui écartaient le filet.
Voilà. Alors, je présente... Moncef Gachem, qui est donc tunisien, poète tunisien, mais qui parle parfaitement français, ce qui va bien nous arranger. D'ailleurs, il écrit aussi en français, il revendique les deux cultures. Après avoir fait des études dans son pays, il a terminé sa carrière universitaire, si je puis dire, à Paris 4. Donc, il a une formation de journaliste culturel, il est poète. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il appartient à toute une génération de pêcheurs. De ce petit port méditerranéen qui s'appelle
Mahdia, c'est une ville tunisienne qui a joué un rôle important au Moyen-Âge, puisque le chiisme, ce qu'on appelle le chiisme, c'est l'islam radical tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Perse, en Iran notamment, mais aussi un peu partout au Moyen-Orient. Alors que le Maghreb, par exemple, il est sunnite. Et c'est une ville qui a été fondée dans une sorte d'idéologie qui s'appelait le mahdouisme, c'est-à-dire l'élu de Dieu, qui va venir sur Terre et qui va vraiment établir une sérénité et beaucoup de bien-être pour les humains. C'est encore, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore eu lieu.
Non.
Je descends d'un essaim, d'un clan, d'une famille de pêcheurs côtiers. Mes papas, il a été aussi pendant longtemps pêcheur au Lamparo, de sardines. Et donc, quand j'étais gamin, par exemple, je partais, pendant les grandes vacances, je partais beaucoup à la pêche au Lamparo. C'est-à-dire toute la technique de l'amarrage en pleine mer, jeter l'ancre, envoyer les Lamparo, les barques à rames, les envoyer contre vent jusqu'à la descente de la lune pour chercher le poisson. Sardines, notamment maquereau, sardinelles, anchois, parfois légèrement, la palamite aussi, c'est arrivé maintenant. Tout ce monde-là, il est tellement... C'est devenu presque un monde révolu. C'est en 20 ans, il a suffi de 20 ans en Tunisie pour que la mer soit complètement pillée. Il n'y a plus un serron de culture à la côte, il n'y a plus un spar.
Il n'y a
plus de poissons. C'est fini. Depuis la fin des années 60, où le commandant Cousteau avait dit aux Tunisiens, faites attention parce que votre pépinière de poissons au large de Gabès est en train de se vider, ils ont continué à chaluter nuit et jour, surtout les Italiens d'ailleurs, avec des équipages composés de Tunisiens.
Attention. Non, j'ai bien lu justement. J'ai bien lu justement dans votre livre Les Muselières, c'est ça, hein, que les pêcheurs italiens étaient très présents quand vous étiez enfant, en particulier.
Ils étaient très présents parce que c'est eux qui étaient les garants de la modernité. C'est-à-dire le Lamparo lui-même, la flottille aussi a radicalement changé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des communistes italiens en Tunisie, il y avait beaucoup de fascistes, les Mussoliniens, mais il y en a un qui s'est occupé de l'état de pêcheurs à Madia, que tout le monde appelait Nino Marino. Nino Marino, c'est devenu à la fin une figure un peu abstraite, comme ça, de celui qui veut associer autour d'un projet pour améliorer les conditions de vie des pêcheurs à la sardine. Mais il y a beaucoup à dire sur ce sujet, c'est-à-dire les Siciliens ont immigré beaucoup en Tunisie. Dans les villes, il y avait des communautés qui se sont constituées. Par exemple, on sait que l'actrice de cinéma, Claudia Cardinale, est la fille d'un ingénieur de mine. Mais il y avait aussi beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de pêcheurs, et notamment des pêcheurs, comme on dit, des rais, comme on dit, des mastro, des chefs, ceux qui dirigeaient les opérations, ceux qui avaient, on les appelle les rais. Capitaine, oui, tout à fait. Capitaine. Donc, c'était d'abord les Italiens. Pas simplement pour le Lamparo, pour le chalutage aussi, pour le chalut, et pour les pêches côtières aussi, pour l'encerclement et l'étouffement du loup, le bar. Quand il y a les bancs qui se forment à la fin de décembre, à Noël, oui. Les grands bancs qui arrivaient du sud, sur la côte, après la tempête, après le vent du nord-est, les bancs se formaient, et les Italiens, ils les encerclaient avec des filets à trimailles, à trois mailles, le deux mailles, pour
prenez.
Et donc,
oui.
Ça a commencé un peu là aussi, parce qu'avec de la potasse, du potasse, ils faisaient des sortes de sacs dans du tissu usé pour aveugler le poisson, parce que le poisson se réfugie dans les rochers. Mais pourquoi ils appelaient ça tahliq ou tadiq? C'est l'étouffement et l'encerclement, encerclement et étouffement, parce qu'ils ne laissaient aucun poisson. Et il y avait des prises par jour de 300, de 400 kilos de loup par jour. Aujourd'hui, tous les Tunisiens et les non-Tunisiens aussi mangent du loup industriel qui est élevé dans des cages au fond de l'eau, sur le rivage de la mer, mais c'est le loup industriel. Et la dorade, c'est pareil. C'est le moment de dire aussi qu'en Tunisie, pour la pêche côtière, il y avait les saisons qui comptaient. C'est-à-dire chaque saison avait sur terre, dans le jardin, avait son terre, son fruit, et en même temps, dans la mer, il avait le poisson qui répondait à l'éclosion de ces fruits. Par exemple, il y avait les abricots, il y a le dentier qui arrive, il y avait les néfliers, les nèfles, il y avait les germons et les poissons bleus qui arrivent, le thon aussi. Il y avait la figue noire ou la figue bleutée, il y avait le mérou qui arrive, il y avait la grenade qui arrivait, il y avait le pagre rose qu'on va chercher dans les repères, dans les carcasses. Chaque saison, il y avait par exemple la date qui arrivait sur le marché du sud, la date qui est mûre et qui est proposée par les vendeurs de fruits, eh ben, c'est la saison du mulet. Et après, il y a le dorade. Et chaque saison avait son filet approprié, son équipage, sa connaissance de la mer, du fond de la mer aussi. Enfin, c'était comme ça.
Est-ce que vous reconnaissez des pratiques que vous avez connues, vous, en tant que pêcheur, c'est cette façon de pêcher, là, et ces saisons qui défilent
Oui, quelques-unes, quand même, pas entièrement, comme l'a expliqué monsieur, là, mais quand même, j'ai été rejoint pour quelques-unes des... Par exemple, on disait une anecdote, là, mais bon, vous savez, ce n'est qu'une anecdote, hein, qui disait que la saison des vendanges, le thon venait vraiment sur le bord des côtes, vous voyez. On disait qu'il venait manger le raisin.
Ils arrivaient un peu plus tôt dans les... En Tunisie, ils arrivaient un peu plus tôt dans les mandragues.
Les madragues. Les madragues, il y en a eu du côté de Carrioul-Rouet. Ici, dans la région, il n'y en a jamais eu de madragues. Ici, on faisait la cinche, on encerclait le thon. Nous avons fait en 1952 exactement, aux environs du 15 mai. En 1952, nous avons fait une pêche de thon énorme. On a pêché, nous étions plusieurs pêcheurs associés, on a pêché 40 tonnes de thon, vous savez où ? À 200 mètres du théâtre de la mer, là. Il y a les pédalos qui venaient voir, c'était au mois de mai. Hein, à ce moment-là, les temps ils étaient plus propices que maintenant. Il y avait déjà des gens sur la plage, les gens à pédalos, il y avait une vingtaine de pédalos qui venaient voir. Je vous dis, c'était à 200 ou 300 mètres au large de la corniche, là. Ça c'était la rentrée du mois d'avril-mai, puis on ne les voyait plus, les thons, et ils revenaient de nouveau au mois de septembre-octobre. Alors c'est là qu'on disait, ils viennent manger le thon, ils viennent manger le raisin. C'était le moment de la vendange, c'était un dicton, un peu comme ce que vous venez de raconter.
Oui, les correspondances voilà. Entre les saisons des fruits et puis les voilà, poissons oui. Pêchés.
On disait aussi que les Italiens, ce n'étaient pas de vrais mangeurs de sardines. Vous savez pourquoi l'Italien ne mangeait pas de sardines ? Parce qu'eux disaient que la sardine mangeait les morts. Alors c'est pour ça qu'ils n'étaient pas friands de sardines.
Ah oui.
Ça, c'était à l'époque. Hein. Chaque fois qu'ils pêchaient sardines, ils rejetaient la mer, parce qu'ils disaient que ça mangeait les morts, ça. Alors ils ne voulaient pas manger.
Mais il y avait quand même des frontières culturelles.
Oui.
Y compris en ce qui concerne la consommation du poisson, par exemple,
oui.
La sole, ou le poulpe à l'époque, ou la sèche, ou même le calmar, étaient dédaignés, et la crevette, avec toutes ces, étaient dédaignés par les Tunisiens.
Oui.
Et alors que les Italiens, eux, adoraient ce genre de poisson-là.
Ah oui, ils étaient considérés comme les...
c'était de bons poissons quand même, oui. Je veux dire.
Hein. La sardine a permis aux paysans, Amadia, aux paysans qui n'avaient pas de terre, de se faire enrouler dans les équipages.
Ah oui, oui.
Et gagner. À l'époque, ils gagnaient 22 euros par lune, parce que c'est à la pleine lune que ça s'arrête pendant 3 nuits.
Mmh.
C'était la fête, donc les mariages qu'on célébrait et tout. À chaque fois où la lune devient pleine, la pêche au Lamparo s'arrête parce que la sardine ne vient plus, ne monte plus
à
chercher le plancton.
C'est
voilà.
Une pêche qui se pratiquait en période obscure. Deux ou trois jours après la pleine lune, on n'y allait pas parce que la lumière ne faisait pas effet, vous voyez. Le poisson ne venait pas sur la lumière. La lune était plus forte que la lumière. Hein.
On retrouve un peu dans vos souvenirs, comme vous avez raconté, il y a une époque où la pêche à la sardine était importante, mais les structures pour la commercialiser ou la transporter n'existaient pas. C'est bien vous qui nous avez dit ça ?
Eh bien oui, c'est-à-dire que quand on a fait autrefois, on faisait la pêche, comme disait le monsieur là, avec des filets dérivants.
Oui. Alors, c'est quoi le filet dérivant ?
Le filet dérivant, c'est le sardinal, c'est un filet qui s'en va, qu'on cale le soir au coucher du soleil,
oui.
Et qu'on va retirer quand la nuit est complète. On appelle ça la prime. Puis on recale le filet dans la matinée, c'est-à-dire à peine quand l'aube pointe dans l'est, c'est là qu'on place les filets. Quand le soleil s'élève, c'est là qu'on va retirer les filets. Alors c'est un filet qui restait entre une heure et demie dans l'eau, voyez. Il partait au fil du courant et il fallait démailler les sardines une par une. Et partant de là, ce serait peut-être trop long à expliquer, ça a été abandonné parce qu'à l'époque, on était envahis, on était mangés par les marsouins, vous voyez.
Oui.
Alors, la plupart du temps, là, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont été obligés d'abandonner le travail parce que les dauphins, ils ont mangé les filets. Un peu de plus, ils mangeaient aussi à eux, vous voyez.
Oui, oui, oui,
alors, quand on entend parler de le gentil flipper au dauphin, ne parlez pas du gentil flipper au dauphin à un pêcheur parce qu'il risque de vous égratigner. Hein.
Ah bon.
Oui, parce qu'à l'époque, moi, j'avais deux sœurs, j'en ai encore une qui est encore en vie. Elle ne connaît rien, elle ne connaît que le bol en train de réparer les filets.
Oui.
Mes sœurs ne savaient pas ce que c'est qu'une plage, un cinéma, rien du tout. Une qui est décédée il y a quelques années, l'autre qui est encore en vie, elle pourrait en parler savamment parce que sa vie, elle a passé sur le bol en train de réparer les filets qui étaient mangés par les marsouins. C'est après qu'on a fait la pêche au Lamparo,
oui.
En 1960, mais on a fait cette pêche un peu trop précipitamment parce que on a attelé les bœufs avant la charrette, comme on dit, vous voyez. C'est-à-dire, quand on a fait la pêche à l'amparo, on pêchait chaque jour, il y avait entre 100 et 150 et 200 tonnes de sardines. Il n'y avait pas d'infrastructure pour commercer tout ça. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de caisse, il n'y avait pas de glace. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il se passait, on travaillait un jour, deux jours. Alors, le marieur nous dit stop, ce soir, on ne va pas à la mer. On ira demain parce qu'il n'y a pas de glace, il n'y a plus de caisse, il n'y a plus de camion, tous les camions sont sur les routes. Et alors, partant de là, la pêche au lamparo, ça c'est chaque pêcheur, il y en a qui ont essayé de faire autre chose, vous voyez. Et au bout d'une quinzaine d'années de lamparo, je suis resté tout seul. J'étais le dernier lamparo, c'est toi. Voilà.
Et alors, ça a été abandonné à cause de la production de pêche que vous faisiez qui n'était pas...
Non, ça
pas commercialisé.
Non, c'était pas ça. Ça a été abandonné pour la bonne raison qu'il y a eu une pêche plus moderne qui est sortie, c'était les filets pélagiques. Les filets pélagiques, c'était moins tributaire du temps, moins tributaire du courant, moins tributaire de la lune et moins de personnel.
Ah oui.
Alors ça fait qu'à mesure, les gens se sont reconvertis en faisant la pêche au filet pélagique. Et moi, comme j'avais déjà un âge un peu avancé, j'avais plus de 50 ans, à l'époque, je ne devais pas me reconvertir. S'il me reste encore 3 ou 4 ans, je vais finir là. Et de 35 lamparos que nous étions, à la fin, les 3 dernières années, je suis resté tout seul. J'ai fait 3 ans tout seul à la pêche à lamparos.
Et ça a été complètement abandonné sur toute la Méditerranée ou pas?
Pas toute la Méditerranée. À Collioure, à Pourvande, il en reste encore quelques-unes.
Ah oui.
Mais il en reste pas beaucoup, hein.
Et alors chez vous, pareil?
Alors c'est pareil, c'est l'arrivée des scènes ou de ce qu'on appelle le diable, le filet diable, qui a, avec des anneaux se ferme à l'intérieur.
C'est-à-dire c'est la pêche à l'amparo.
Oui.
C'est la scène.
À l'origine, la scène avec un filet, le sac au milieu avec les deux ailes, ça a duré comme ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 50.
Oui, alors ça c'est le...
Alors le filet, il était gardé dans la barque, dite la longue barque, avec deux paires de rames, parfois 6, avec des hommes à chaque rame, quand il s'agit d'entourer. Parce que sur le lamparo, ils étaient 3. Il y en avait 2 qui allaient chercher le poisson, donc qui restaient allumés et qui voguaient aux environs de la barque principale.
Oui.
Et il y en avait un qui restait toujours accordé au filin avec la grande barque.
Oui.
Une fois que le capitaine appelle avec la lampe, généralement électrique, les deux lamparos et qui avec des morses, avec une communication, avec des signaux, une fois pour savoir si la quantité est bonne ou pas, les deux barques qu'on appelle en tunisien, j'aime beaucoup le mot, les bergers, les barques bergères.
C'est pas connu ici. Ça.
Oui. C'est Groub El Mara en tunisien. Groub El Mara, c'est vraiment la barque ou le regroupement par la bergère.
Oui.
La barque, là, elle est appelée comme ça. Elles arrivent toutes les deux et elles éteignent la lumière auprès de celui qui est amarré à la barque principale, au bateau. Et donc, toute la prise se ressemble autour d'un seul lamparo. C'est le moment où le capitaine descend dans la barque à Seine, pour entourer, pour encercler tout ça.
Oui,
mais la barque de Seine, elle restait pas fermée au milieu.
Oui.
C'est-à-dire les ailes, ça dépend du courant aussi. Quand le courant est fort, l'aile du filet ne descend pas assez profondément.
Pas, c'est pas normal.
Ça a été remplacé parce qu'on a appelé par deux sortes de filets pélagiques. Le premier s'appelait Diabolo, et donc le porteur du Diabolo est un bateau à moteur qui fait entre 9 et 11 mètres, sur lequel est mis ce filet avec des anneaux au milieu qui sont traversés tous par un filin assez solide, et enferme le fond de telle façon que le poisson se trouve dans un sac complet. Le sac ne constituait plus. Et puis il y a eu le chanchoulou qui est dévasté complètement. Il n'y a aucun poisson qui peut s'en aller, même si la prise est de mulet ou de muge sauteur. Le chanchoulou la prend, parce que c'est la fermeture, elle est plus rapide que celle du Diabolo. Et le chanchoulou, il est porté sur la grande barque. Permettez-moi de dire une chose, le changement est en 20 ans, c'est incroyable. Avant, les gens, les pêcheurs, ils allaient partaient au début de l'après-midi, vers le coup de 4 heures, tranquillement, avec leur dîner dans le couffin, Et puis bon, comme vous le savez, après c'est le sommeil, et vers, ça dépend de la lune, vers 1h du matin, le premier encerclement. S'il y a encore du poisson et qu'il vient du poisson, deuxième encerclement à 2h, 3h du matin.
Ouais.
Ce n'est plus le... Et puis rentrer au port, à 6h du matin, la sardine est fraîche, le maquereau aussi dans le port, sur le quai. Et la criée commence. Aujourd'hui, ils partent en plein jour, ils restent 4-5 jours avec des tonnes de glace, et quand ils retirent 100 caisses de poissons, c'est comme s'ils avaient inventé, réinventé le monde. Alors que c'était rien du tout, c'était vraiment... La profondeur, moi quand j'étais gamin, je me souviens, le sol, la profondeur, le sable des fonds, on le voyait à l'œil nu. On encerclait ça avec le Seine. Donc c'est le changement en Méditerranée.
Donc on a bien, sans rentrer dans des détails techniques, on voit bien que les outils se sont perfectionnés, aussi bien en Tunisie qu'ici, hein, les outils de pêche se sont perfectionnés, et que ça, on arrive à une pénurie, il n'y a plus de poissons finalement. Parce qu'ici, du poisson bleu, est-ce qu'on en pêche encore?
Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus.
Non, mais attendez, ça, c'est, ce n'est pas parce qu'on a, ce n'est pas parce qu'on a, on a trop pêché. Il s'est passé un phénomène en Méditerranée qui n'est pas vieux, qui dure à peine depuis 2 ans. On ne rencontre plus de maquereaux, on ne rencontre plus de sardines, on ne rencontre plus d'anchois. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait demander aux pêcheurs scientifiques, je ne sais pas s'ils pourront répondre à la question. Mais moi, ce que je pourrais vous dire, c'est, ça ne concerne que moi. C'est ce que je vois que moi. Hein.
Oui.
Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ce que je vais vous dire, ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, c'est du jour au lendemain qu'il n'y a plus de sardines, de maquereaux et d'anchois. C'est pas qu'on les a pêchés, parce qu'encore il y a 2 ou 3 ans, on pêchait des tonnes et des tonnes et des tonnes de sardines. Du jour au lendemain, on n'a plus vu une sardine, on n'a plus vu un maquereau, on n'a plus vu un anchois. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène. Hein. D'après moi, il a manqué de plancton. Il a manqué de plancton. Pourquoi? Peut-être salinité de l'eau, peut-être température de l'eau, peut-être pollution. Il n'y a plus de plancton. Du moins qu'il n'y a plus de plancton, la sardine, ça c'est comme les oiseaux qui vont à la recherche, qui font des milliers de kilomètres pour aller se nourrir. Et bien les sardines, c'est la même chose, les maquereaux. Ici, remarquez ce que je dis, ça ne tient que de moi. Hein.
Oui, non, mais...
Ici, il n'y a plus de plancton, et le poisson bleu est parti vers l'est. Parce qu'une preuve supplémentaire a été qu'il y a 2 ans de ça, ils n'ont jamais vu de poisson bleu en Italie, comme ces dernières années, disons, il y a 2 ans de ça. Tout le poisson qu'il y avait ici en Méditerranée, il est tout parti en Italie. Il est parti pourquoi? À la recherche de... pour manger. Alors du moment que la sardine, l'anchois, ça se nourrit de plancton, s'ils sont partis et c'est qu'il n'y avait plus à manger ici, oui. Ils se sont foutus le camp. Ça ne tient qu'à moi. Hein.
Mais c'est une explication possible.
Il faudrait le consentement, l'assentiment.
Parce que c'est spécifiquement ces poissons-là qui ont disparu. Les autres, non, on en trouve encore.
Mais on en trouve, c'est-à-dire que le poisson du chalut, il y en a de moins en moins, parce que ça se reproduit pas comme la sardine et comme le maquereau, vous voyez. Ce qu'on lève, il faut attendre qu'il se reproduise. Mais la pêche à la sardine, jamais. Écoutez, il y a certains, je ne les crois pas, il y a certaines gens qui disent on les a levés. Mais à la guerre, tout le monde ne meurt pas à la guerre. Qu'on ait levé des tonnes, d'accord, mais ils devraient en pêcher encore 10 kilos, 15 kilos par bateau. Ils n'en pêchent pas une.
Oui.
Une sardine, elle n'y est pas dans la mer. Une, elle n'y est pas. C'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose. D'après moi, il n'y a plus de plancton. Et là, c'est foutu le camp, et voilà. Maintenant, il n'y a plus de plancton. Pourquoi? Ça risque de revenir. Pollution, salinité, température, c'est un phénomène comme ça. D'après moi, une fois de plus, je vais le répéter. Ça ne concerne que moi, ça. Hein.
Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, c'est une rencontre entre poète et pêcheur enregistrée le 23 juillet dernier à 7 pendant le festival de poésie Voix vive de Méditerranée en Méditerranée avec Mansev Gachem, poète tunisien, Raphaël Albano, pêcheur sétois et Georges Drano à la présentation.
Alors, j'aimerais bien. Alors, est-ce que vous avez participé, vous avez parlé de la pêche dans vos souvenirs d'enfance. Est-ce que vous-même, vous avez participé à des, des campagnes de pêche?
Moi, dans ma famille, j'étais pêcheur, bien sûr. J'étais pêcheur, j'étais même un rameur qui était, comment dire, en compétition avec d'autres rameurs. Parce que quand on pêchait le mulet, par exemple, c'est une pêche collective qui rappelle un peu la mandrague aussi. C'est-à-dire qu'il y a un filet fixe, nuit comme jour, et ce filet fixe avec deux chambres de mort, une chambre de mort vers la terre, qu'on appelle intérieure, et une chambre de mort extérieure. Et les bons qui arrivent, évidemment, ils se heurtent à ce filet barrage, qu'on appelle un filet barrage, ils se heurtent, et puis ils se regroupent à quelques mètres ou à un mille au plus au sud par rapport au filet fixe. Et le matin, il s'agit de prendre ce poisson qui est arrivé. Et ça dépend du nombre des barques qui sont équipées du filet approprié, c'est-à-dire la maille de 23 mm, la petite maille, c'est assez étroit comme maille, et les pêches sont absolument miraculeuses, extraordinaires. Par exemple, je peux raconter une pêche qu'on a faite, alors que habituellement, c'est à l'aube, avec le lever de soleil, que ça se passe. Oui. Et en plus, c'est très spectaculaire. Moi, ça m'a beaucoup fasciné, ces pêches-là, parce que ça saute. Le mulet, quand il est bloqué, ou le muge, ou le mulet sauteur, il saute pour échapper. Et quand il saute avec le lever de soleil, ça donne des couleurs sur l'eau absolument extraordinaires. Enfin, le tout était... Et il y a parfois des prises, on a pris 4-5 tonnes en une seule mise. On a un seul blocage du banc des mulets pour la dorade. Après, ça c'est le mois d'octobre, qu'on arrive novembre, aux alentours du 10 novembre, arrive la dorade royale. Et alors là, c'est les filets fixes. La dorade, on ne la bloque pas, on l'encercle pas, il n'y a pas de mise à mort comme avec le mulet. Parfois, elle se mélange avec le banc du mulet. C'est des filets fixes qui, le matin, ça fourfoutait de partout. Quand on a 100 mètres de filet, on peut prendre 200 kilos de dorade, mais des vrais, de la dorade royale.
Maintenant, pêche dans les temps au mois de septembre, à la sortie au mois de septembre, ils font des belles pêches. Là,
peut-être qu'il y a, oui, mais octobre. Octobre pour le mulet. Peut-être qu'entre le sud et le nord de la Méditerranée, il y a un écart au point de vue temporel, au point de vue saison. C'est pas le même. Nous, à tel point qu'à Tunis, on appelle le mulet octobri, c'est-à-dire le poisson d'octobre. Ça pullule beaucoup au mois d'octobre et c'est une pêche assez physique aussi, parce qu'il s'agit de prendre les rames. Il y avait un filet qui se mettait horizontalement sur l'eau, et la sautade, qu'on appelait la sautade, et qui est composé, donc il y a deux ralingues de cannes de roseau. À chaque brasse, il y a une canne, et des fois la pêche est tellement forte qu'entre deux cannes, les hommes, ils ahanent pour pouvoir prendre les poissons qui se sont pris dedans. Et donc, c'était spectaculaire. C'est comme une natte posée, et ça froute, les nageoires caudales, ça froute, voilà, oui.
Alors,
ça froute
carrière,
partout.
Dans votre carrière de pêcheur, est-ce que vous avez eu peur quelquefois?
Une seule fois, oui.
Et alors, dans quelles circonstances?
Les circonstances, c'était un défaut de jeunesse. C'était au début que je faisais le patron.
Sur quel bateau, là, à ce moment-là?
Eh bien, c'était au tout début de la pêche au Lamparo.
Oui.
Au tout début, écoutez, on a commencé à faire le Lamparo en 1960. L'histoire que je vais vous raconter, c'était en 62 ou 63 à peu près. On a fait le Lamparo. Au départ, on n'était pas équipé comme on l'a fait. On n'avait pas de gros bateaux. C'était à bord des barques catalanes. C'était les barques catalanes et... On a débuté avec ça, quoi. C'est-à-dire, c'est par la suite qu'on a fait des bateaux encore plus importants parce qu'il y avait des pêches qui étaient importantes. Et justement, la peur que j'ai eue de ma vie, ça a été cette fois-là. Nous étions partis avec un Mistral qui était enfin un peu comme aujourd'hui, vous voyez. On est allé pêcher au large du Cap d'Agde. On a fait une pêche miraculeuse. Miraculeuse pour l'époque, il y avait 7 ou 8 tonnes de sardines. Alors, 7 ou 8 tonnes de sardines, dans la barque catalane qui fait 10 mètres de long, il y avait 9 hommes d'équipage, il y avait le filet.
Juste les sardines.
Et on n'a pas embarqué les 9 tonnes, on a embarqué 6 tonnes. Il y avait juste le capillon, c'est juste l'avant du bateau, il y avait juste ça sur l'eau là.
Oh là!
Non, mais attendez. Non, mais si c'était calme, c'était pas grave.
Oui.
C'était pas grave. Mais c'est qu'il y avait un mistral, vous voyez, assez fort quand même. Et chaque coup de mer, le bateau, il se plantait. Il embarquait de l'eau. Et l'eau, on ne pouvait pas évacuer parce qu'elle était bouchée par toutes les sardines qu'il y avait sur le bateau. Et à l'époque, la peur, j'avais eu peur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen de téléphone comme il y a eu par la suite.
Oui, oui.
Il n'y avait pas de fourni, il n'y avait rien du tout. Là, si on coulait, je veux dire, on était perdu qu'on aurait bien. Hein. Alors maintenant, avec l'âge, je pense, je dis, mais quand même, tu as fait une connerie plus grosse que toi.
Ah.
Oui. Oui, parce que, je vous dis, l'eau s'embarquait, elle ne pouvait pas évacuer. Alors il a fallu, avec les mains à plusieurs, on a jeté des sardines à la mer, pour dire que l'eau qui s'embarquait, elle évacue. Hein.
Oui.
Je veux dire, on était à 20 cm hein, de l'eau. Là, le bord du bateau, il était à 20 cm de l'eau. Hein. C'était très, très, très... De temps en temps, quand je ne peux pas dormir, je pense à ça. J'ai dit, si tu es ici, c'est un miracle. Hein.
Mais alors, à propos de ces barques catalanes, c'est pas dans votre famille qui est l'origine un peu de la fête des pêcheurs, non?
Là, vous posez une bonne question que je pourrais vous répondre assez savamment là-dessus.
Ah, ben c'est bien. C'est ce que j'attends.
Ah, ben ouais. Eh ben, c'était en 1948. Je faisais mon service militaire. Maman m'écrit, elle me dit, tu sais, elle me dit, les pêcheurs, cette année, ils vont essayer de faire la fête de la Saint-Pierre. Et comme notre bateau s'appelle le Saint-Pierre, c'est celui-ci qui aura le privilège de porter la statue de Saint-Pierre. Alors moi, j'étais au régiment à ce moment-là. Alors la maison qui est à côté, là, c'était la maison de la famille Merenda, c'était des marailleurs à l'époque. Madame Merenda a fait des pieds et des mains pour me faire venir en permission. Et c'est pour cela que j'ai assisté à la première fête des pêcheurs en 1948. Et depuis 1948 jusqu'à encore cette année 2011, j'ai fait la Saint-Pierre. J'ai fait 64 Saint-Pierre. J'ai fait 64 sorties en mer, j'ai assisté à 64 messes, j'ai assisté à 64 repas. Je crois que c'est un record presque inégalable.
Est-ce qu'il existe aussi une fête des pêcheurs dans votre ville natale?
Il existe plusieurs fêtes des pêcheurs en Tunisie en général, mais c'est un peu en dehors de la culture officielle, j'allais dire. Que ce n'est pas du tout associé à la religion ou à la pratique religieuse.
Oui.
C'est peut-être l'un des réseaux le plus sobre, le plus résistant du paganisme ancestral.
Oui.
C'est-à-dire quand les barques sont neuves, par exemple, et ça, je l'ai dit dans le livre qui s'appelle Orphie, quand les barques sont neuves et qu'on allait le mettre pour la première fois à l'eau, il faut absolument prendre l'armateur, le propriétaire, et vraiment le jeter dans l'eau. Quel que soit, même si c'est l'hiver, il faut le jeter dans l'eau.
L'homme,
il faut qu'il goûte, il faut la planche humaine.
Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas fait, ça. Hein.
Oui, mais je vous dis, ce sont des choses différentes. Et alors, ça devait venir d'Afrique, ou ça doit venir de plus loin, peut-être de l'école punique, de l'époque punique, peut-être, qui était de grands navigateurs. On mettait un sou ou deux sur la carène, en bas. Derrière, vous voyez, il y a la poupe, il y a l'étrave, il y a la poupe, et derrière, il y a la carène, il y a les tombeaux. Là, on met des sous avec l'idée, avec l'espoir, bien sûr, qu'on va faire des bonnes prises,
oui.
Bien sûr. Mais vous avez posé la question aussi sur les naufrages et sur la peur de la mer. Elle est terrible, la Méditerranée. Hein.
Oui.
Moi-même, j'ai un souvenir cuisant. Mon oncle, il avait justement une nouvelle barque, mon oncle maternel. Il avait une nouvelle barque qu'il avait mis du temps pour économiser, etc., pour l'avoir. Puis c'était au mois de septembre. Et les nuages se sont montrés, le ciel s'est couvert vers le nord-est. Ce qui n'était pas un bon signe, on appelle ça une vergue de nuages. C'est-à-dire, le vent va venir. Et comme la barque, elle est amarrée devant la maison, donc la maison natale de ma mère, en fait, mes parents étaient voisins, pas très loin, la barque, elle était amarrée, il nous a appelé, mon oncle, nous, les gamins, ses trois filles, ses neveux et moi, et il nous a dit, vous prenez la barque, vous allez ramer, vous allez jusqu'au vieux port, et vous l'ancrez là-bas. D'accord, on est content comme des gamins. Et mon Dieu, il y a un cap. Il y a un cap qui rentre dans l'eau. Il y a un cap. Et alors, un typhon, un orage indescriptible. C'est toute la poussière de la terre s'est mise, tout le papier, tout s'est mis à bouger. On ne voyait pas à un mètre l'un de l'autre. Et tous, on a dit, on va mourir. C'était les paquets d'eau comme on ne tenait plus aux rames, on se mettait à deux et la ficelle qui retenait les rames aux poutres, là, s'est déchirée. C'est déchiré, on savait. Le strobe. On ne savait plus, merci, on ne savait plus comment faire pour nous diriger. Alors la barque, elle flottait selon le coup du vent.
Ah oui.
Et c'était rempli de. Puis brusquement, un d'entre eux, et ça je me suis vraiment posé, nos mères, elles criaient. On entendait les cris, on disait, maman, je suis là, je ne suis pas mort. Elle ne m'a pas encore prise, la mère, je suis là. Mais on écoutait les hurlements, nos enfants sont morts, nos enfants, sur la terre, on n'était pas très loin. C'était affreux. C'était... Et il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a dit, « Ah, est-ce qu'il y a un bon élève ici ?» C'était moi qui l'ai désigné. Il a dit, « Monsef, toi, tu es un bon élève, tu connais le Coran. Dis-nous le Coran, comme ça, Dieu, il nous écoute. » Dieu, il nous écoute, et c'est vrai. Et je me suis mis à lire, je suis devenu lecteur. Et jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions au niveau de l'écriture. Si en ce moment-là, je n'étais pas cuit, je n'étais pas fait pour le restant de ma vie. Je me suis mis à lire le Coran et on s'est sauvés comme ça. On était des nouveau-nés.
Ah oui, c'est déjà un début de poésie, ça, non? Vous voyez qu'il y a des dangers partout. Hein? Vous n'avez pas vous n'avez pas fait de prière, vous, quand vous étiez submergé par les sardines et tout.
Non, je vous dirais que je suis quand même assez croyant, mais pas pratiquant, vous voyez.
Oui.
Non, mais j'ai jamais appelé le bon Dieu pour qu'il nous sauve. J'ai dit, bon, c'est le destiné qui nous voilà. Sauvera. Voilà. Si, mais remarquez, plusieurs fois aussi, nous nous sommes trouvés, par exemple, pendant plusieurs fois, à l'époque, là, alors, il n'y avait pas de radar comme il y a maintenant, il n'y avait pas de tous ces moyens. Nous étions au large de Bauduc, là-bas, il y a 4 heures de route à faire. Hein. Il y avait un brouillard, on ne voyait pas à 50 cm. Hein. Il fallait venir de là-bas. Il fallait venir de là-bas. On ne voyait rien, c'était brouillard, il fallait venir de là-bas, il fallait engueuler le pôle, là, vous voyez. Et il n'y avait pas de radar, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Et bien, heureusement, je ne sais pas si c'est le bon Dieu qui m'a accompagné, nous avons engueulé la passe, là, tout normalement, là, j'étais content. Mais j'ai paniqué un peu, là, parce que pendant 4 heures, on ne voyait rien. Mais on aurait pu rentrer dans un bateau, dans un cargo, ou dans des rochers, je ne sais pas, moi. Hein? Alors, ça, c'est pareil, de temps en temps, j'y pense à ça, là. Tu te rends compte, cette fois-là, quand je suis venu de Bauduc, là-bas, avec le brouillard qu'on ne voyait pas 50 mètres devant, 4 heures de route, hein, j'aurais pu rencontrer un obstacle devant. Ça aussi, ça a été, vous voyez, de temps en temps, j'y pense.
Comment vous pourrez caractériser la Méditerranée, qui a l'air d'une mer imprévisible, en fait, non?
Eh bien, la Méditerranée, contrairement à ce que les gens pensent, elle est très mauvaise, la Méditerranée, là. Tous les soirs, nous allons faire un tour sur le bol, on va prendre de l'air l'été, vous voyez, là, tous les soirs, entre 9h et 10h, on va faire le tour. Il y a 2 ou 3 jours. Il y avait juste à peine un peu de capotis, vous voyez, derrière, là. Il y avait un peu de la bêche, le soir, là. Quelques petites vaguelettes. Alors, il est venu d'Estivan, il a dit, « Oh, mais j'ai jamais vu ça, Méditerranée, soit disant que la Méditerranée est calme. » Et il y avait juste un peu de clapotis. J'ai dit, « Madame, mais vous n'avez rien vu, là. Il faudrait voir quand c'est le moment des équinoxes, quand il y a des gros coups de temps d'est ou de sud-est, que la mer le traverse le brise-lames. Il y a un petit clapotis, vous appelez ça que la Méditerranée est mauvaise, vous. Eh bien, venez voir en plein hiver. Vous verrez, vous aurez une autre idée de la Méditerranée. » Il s'imagine que la Méditerranée, c'est un lac. C'est loin d'être un lac de Méditerranée. En 1982, exactement, il y avait... Écoutez, nous ne sommes pas loin, là. Je vais vous expliquer très brièvement. En 1982, il y a eu un gros coup de temps de sud-est. Il y a eu des creux, les vagues qui faisaient 9 mètres de haut. Ça commence à compter. Et là où nous sommes à côté, cette maison-là, vous voyez cette maison-là,
oui.
celle-ci-là, cette maison-là.
Oui.
Ce jour-là, tout le toit, toute la toiture est partie de l'autre côté, tout ensemble, toute la toiture que vous voyez, là, tout ça là. Le vent, il a soulevé toute la toiture, hein, elle est tombée dans les arbres qu'il y a là-bas. Et pendant 3 ou 4 jours, ils sont restés, tous les voisins, là, ils sont restés, il y a encore un monsieur qui vit et qui se rappelle. Hein. Et quand il pense à ça, naturellement, il a toutes les émotions de la terre. Pour vous dire, la force du vent qu'il y avait, oui. Des forces de 9 mètres, il y a eu des dégâts. Moi, j'avais mon bateau là, je me demande comment il a tenu le coup. Vous voyez, j'avais 2 ancres dans l'eau, mais je ne sais pas comment j'ai pu récupérer le bateau tellement qu'il a fait mauvais temps cette fois-là. Alors, il ne faut pas dire que la Méditerranée, c'est là qu'ils se trompent, les gens.
Oui, oui.
La Méditerranée est très dangereuse.
Mais alors, vous êtes en retraite depuis pas mal d'années maintenant. Vous avez gardé un contact avec le milieu de la pêche, avec vos collègues, avec... Vous allez vous promener sur le port, regarder les bateaux ou quoi ?
J'ai gardé un canot, j'ai gardé le canot, je l'ai encore d'ailleurs. J'allais pêcher quelques cigales de mer, quelques rougets, quelques poulpes, mais maintenant j'y vais plus, vous voyez. J'ai gardé, et pour dire de rester dans le contact de la pêche, à l'époque quand j'avais encore le bateau, j'ai vendu en 1983, j'avais un magasin qui avait tous les filets dedans. J'ai vendu le bateau et j'ai tout vendu, quoi. Mais j'ai voulu garder quand même ce magasin pour ne pas être directement éjecté du monde de la pêche.
Oui.
J'ai le magasin avec mes filets, de temps en temps je rentre, je vois mes filets, tout ça, là, c'est comme si j'étais encore en activité.
Ah oui.
Je ne suis pas parti directement, vous voyez, encore.
Oui, 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 vous avez gardé. Vous
voyez ce que je veux dire ? J'ai gardé, je paye 1300 ou 1400 euros par an de loyer, je ne m'en sers pas.
Oui.
Je ne m'en sers pas, mais c'est pour dire que je suis toujours en activité, je suis toujours dans le contact de la pêche. Je ne suis pas jeté directement, voilà.
Oui, oui.
On m'a pas viré, personne ne m'a viré encore.
Et vous, on sait, vous avez gardé des contacts, maintenant vous avez eu une carrière universitaire de journaliste et tout, de poète. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec les milieux de la pêche ?
Bien sûr que j'ai gardé le contact, mais il se trouve que ma famille était une famille importante comme clan de pêcheurs, c'est-à-dire tout le rivage sud jusqu'à la Cheba. Au point de vue kilométrage, ça pourrait être 30, 35 kilomètres à peu près. Toute la côte était vraiment la réserve personnelle de mon grand-père et de mes oncles. Et donc pendant des années, en dehors aussi de ma ville natale, vers les ports proches de Salacta par exemple, nous avions des amis de ma famille qui aujourd'hui, j'y étais il y a une semaine, ça a tellement changé. Aujourd'hui, alors qu'avant il y avait beaucoup plus de clarté, le village s'est vidé des gens qui venaient en villégiature, les gens revenaient vers la ville et les maisons se fermaient, il ne restait que quelques bicoques de pêcheurs. On se connaissait tous les uns des autres. Et comme moi, j'attendais le vent du nord pour la pêche au mulet, et quand le vent du nord venait et que je suis à Tunis, je prends le taxi, Et je vais là-bas. Et à 4h du matin, je suis au café. Dès que le café ouvre, je suis là. Le copain pêcheur, il me voit arriver. Et tous, ils veulent m'offrir le café. Parce qu'il m'associe à la bonne prise. Alors que moi, je suis venu avec le vent. Il m'associe avec la bonne prise. J'avais toujours devant moi, voilà. J'avais devant moi plusieurs cafés. Mais maintenant, ma famille, on n'est plus pêcheur. Et la mère elle-même, elle a changé. Mais la question de la proximité, la mer, elle est toujours là.
Oui.
Les pêcheurs à la Seine qui prennent leur fille ou leur fillette ou le Joël, ils pêchent vraiment devant la maison.
Oui.
Donc, bien sûr, le bonjour en passant, bonjour mon cerf, pour eux, je suis un pêcheur.
Oui, oui.
Et c'est vrai qu'à un certain moment, je ne pouvais plus travailler en Tunisie. J'étais poursuivi un peu pour mes idées politiques. Et mes cousins, mes grands-cousins, m'ont sorti d'affaires parce que je pouvais vraiment aller à la pêche à la soupe ou à la pêche à leur fille ou à la pêche au mulet sans problème au sein de ma famille. Donc il m'est sécurisé à ce niveau-là. Ce que je prends maintenant, c'est que je ramasse, quand le vent du nord arrive ou le vent d'est, il y a toujours des rejets de la mer, genre les roseaux ou les flotteurs, les anciens flotteurs, pas ceux industriels qui sont faits en plastique,
oui, oui, oui.
Mais ceux qui sont faits en chêne liège. Alors j'en ramasse, la maison elle est pleine. Une anecdote, j'ai mis contre le mur. Moi, je l'ai mis contre le mur pour avoir le contact. C'est-à-dire, le filet, ils sont sur le mur. Les flotteurs sont en haut, le plomb est en bas. Notamment, les filets makrouf à maille réduite avec lesquels on pêchait le mulet. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, j'adore la pêche au mulet parce que les poissons se transforment, en fait, en oiseaux.
Ah
Voilà, il y a ça, la métaphore, elle est là. Et donc, je mets ça contre le mur. Et quand il y a eu la révolution, là, les maisons, j'étais pas à la maison, mais il y a eu des visiteurs, pour ne pas dire voleurs, dans les maisons. Ils sont venus parce que les maisons n'étaient pas occupées. Ils sont rentrés chez moi, ils ont dévissé la porte, ils ont trouvé le filet sur la porte. Ils sont ressortis. Ils ont tout compris, ils sont ressortis. Voilà, c'est, pour moi, c'est une question de mémoire et de continuer un peu la coutume ancestrale d'une certaine pêche qui est révolue aujourd'hui, qui n'existe plus. Un dernier mot sur la Méditerranée. Nous disons chez nous, nos capitaines, ils disent qu'il faut jamais, tant que tu es sur la mer, il faut jamais fermer les yeux sur elle. Il y a toujours un œil qui se ferme, l'autre toujours, qui est ouvert. Il ne faut jamais lui faire confiance. Et il y a trois interdits. Il ne faut pas parler de lapin. Il ne faut pas permettre aux femmes de monter sur la barque. Il ne faut pas avoir de chaussures aux pieds. Alors, ça, c'est les trois interdits. On parlait de culture.
Oui, une fois, une anecdote, je vais vous raconter que il y avait un pêcheur, à ce moment-là, on pêchait le thon avec les filets dérivants, c'est-à-dire qu'on sortait le soir, vous voyez, vers 7h6 à peu près, on calait les filets, et les filets restaient calés toute la nuit. Alors un jour, il y a un collègue, il me dit, il y a un matelot qui ne vient pas à la mer ce soir, il est malade, tu peux venir le remplacer? Alors moi, au dépourvu, j'étais jeune à l'époque, j'ai dit oui, mais j'ai pas le panier, il me dit, va faire le panier, et tu viens à la mer avec nous. Alors ma mère, vite, pour faire le panier, elle me fait une omelette avec deux œufs, chose qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas manger des œufs à la mer, ce n'était pas possible. Et parce que ça portait malheur, c'est un peu comme le lapin, c'est un peu comme
oui,
le...
Ça.
Et alors ma mère, elle me fait une omelette, et on part en mer. Le soir, on cale les filets, et on se met à manger. Et le patron, quand il a vu que j'avais des œufs, Lou Sabiaco, il parle pas toi, le gars, tu vois. Ça, je le savais. Demain, on fait une blanche. Demain, on fera blanche, on ne pêchera pas des thons. Vous savez que nous avons fait une pêche miraculeuse, hein? On a pêché 24, enfin, miraculeux, pour l'époque, c'était miraculeux. On a pêché 24 ou 25 thons. Et heureusement qu'il ne fallait pas manger des œufs, il ne fallait pas porter des œufs. S'il fallait en porter, alors. Non, ce sont des dictons. Par exemple, si vous parlez, par exemple, ça je ne veux pas le prononcer parce qu'on m'a dit qu'il fallait jamais le prononcer, ce mot-là. Si vous parlez, par exemple, là vous vous faisiez jeter à l'eau directement par le patron. Hein. Si vous parlez de celui qui répare les souliers, ouais, il ne faut pas le dire.
Un vrai pêcheur chez nous, il a les pieds nus. Hein. Il ne porte jamais de souliers. Ou alors il les laisse sur la barque qui est tirée à sec. Le récupérer à son retour. En vérité, maintenant, oui. Ça a changé. Il y a les bottes, maintenant. Oui,
oui. Si vous parlez de celui qui répare le souillet, je suis allé, par exemple, chez le faire réparer, le patron, il est capable de vous jeter à la mer. Hein. Ah ouais, il ne fallait pas parler de ça. Hein. Parce que ça portait malheur. Il y a pas mal de trucs comme ça, là. On disait aussi que, par exemple, celui qui était masqué, quelqu'un qui avait jeté le sort sur un bateau, parce que ça arrivait qu'il y avait des mauvaises passes, hein, et que le pêcheur ne pêchait pas un thon, vous voyez, il avait tous les déboires dans la terre. Alors on disait qu'il avait le mauvais sort. Alors pour jeter le mauvais sort, en fait, ça, c'est un truc qui est connu, là. On jetait du sel gros, vous voyez, pour lever les mauvais sorts. Ça existait à l'époque, tout ça, là. Un tas de trucs comme ça, là, qu'il ne fallait pas, dire, il ne fallait pas prononcer. Non, c'est pas du tout. Non, mais maintenant les jeunes n'y croient plus. Ceux qui croient encore les gens, les pêcheurs, c'est qu'ils ne traîneront jamais un filet ou mettre un moteur un vendredi, par exemple. Même moi, je ne mettrai pas une chemise un vendredi, par exemple, ou un pantalon, ou une paire de souliers. Ça n'existe pas. De monter un filet un vendredi. De mettre un moteur neuf ou de commencer un bateau un vendredi, ça n'existe pas. Ça, les mœurs sont encore restées, malgré la nouvelle génération. Hein. Ah oui. Et bien parce qu'on dit que le vendredi, ça porte malheur. Le bon Dieu est mort un vendredi, il ne faut rien faire un vendredi, voilà. Le bon Dieu est mort un vendredi, il ne faut rien faire un vendredi. Voilà, c'est comme ça. C'est de l'imagination, c'est, on croit pas à tout ça. Hein.
Bon, bah, écoutez, je crois que...
Je suis curieuse, vous avez dit que vous aviez écrit un peu de poèmes.
C'est vous qui m'avez posé la question. Je vous, attention, je vous ai dit que je n'étais ni Aragon, ni Verlaine, ni Brassens. Hein. J'ai écrit des poèmes pour moi, pour me faire plaisir
ça,
à moi.
Ça veut dire que la poésie fait partie aussi de votre vie.
Si on peut appeler ça de la poésie.
Vous aimez écrire.
J'ai écrit, oui, j'ai écrit quelques poèmes sur la belote, parce que autrefois on aimait jouer à la belote entre pêcheurs. Et on a décidé un jour de faire un repas, c'est-à-dire on a commencé au mois d'octobre à faire la belote jusqu'au mois de mars. Alors celui qui avait le plus de victoires, il gagnait le repas. Et les autres, ils étaient obligés de payer le repas. Alors j'ai écrit un poème qui s'appelait La belote et qui retraçait à peu près tout ce que sera la belote. Je peux vous citer quelques vers si je me rappelle encore.
Oui.
Si je me rappelle, hein.
Je voudrais, chers amis, vous tous qui m'écoutez, vous narrer ici-bas ce que fut la belote. Sans ne jamais tricher, quoi qu'on puisse penser, nous sommes les vainqueurs avec la tête haute. Parce qu'on a gagné le tournoi. Hein. Depuis le mois d'octobre et jusqu'à la fin mars, nous avons affronté nos joyeux adversaires. Ils se croyaient triompher, gesticulant leurs bras comme le font si bien beaucoup d'énergumènes. Le premier jour pour nous a été si néfaste, hein, si bien nos adversaires ont été très heureux parce qu'ils ont gagné le premier jour. Le temps d'une tournée, c'est Vincent qui dit basta. Vincent, Théo, serre-nous quand même, on a moins triché qu'eux. Les rires et les embrassades allaient si bien pourtant comme un conte de fées que cite La Fontaine. Mais la riposte fut aussi soudaine que leur joie ne fut pour eux que d'un temps éphémère. C'est-à-dire qu'ils ont gagné une fois et puis ils n'ont plus gagné. Puis après, il y en a encore deux que je ne me rappelle plus. La fin, c'est « Je voudrais terminer ici ce poème sans ne parler d'autrui, vous le concevez bien. Je voudrais dire aussi et à tous nos collègues que Mimi Diroco, c'était le collègue, nous l'aimons tous très bien. » Ça, c'était la fin du poème.
Bravo, merci beaucoup.
Alors ça, celui-ci, ça s'appelait « La belote ». Puis j'en ai écrit un autre qui s'appelait Rebelote. Mais ça, je ne me rappelle plus. Là, je l'ai oublié complètement.
Eh bien, vous remercie d'avoir écouté attentivement M. Albano. Merci beaucoup.
Il y aurait beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses à dire encore sur ma vie. Hein. Ça demanderait des semaines et des mois encore. Hein.
Oui, mais peut-être qu'il y aura d'autres rencontres, pourquoi pas.
Oui, ma foi.
Et merci à Monsef de évoquer aussi. Vous voyez que le monde de la pêche n'a pas de frontières. Des deux côtés de la Méditerranée, on rencontre les mêmes passions et aussi les mêmes inquiétudes, parce que le poisson...
La prochaine fois, je pense que vous allez rencontrer des patrons de chalutiers. Ils vous expliqueront la pêche au chalut, ce qu'elle a été autrefois et ce qu'elle est maintenant. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de poissons. Là, il y a M. Morello, il y a M. Noca que vous devez rencontrer,
oui.
qui vous en parleront incessamment sur la pêche au chalut. Moi, grosso modo, je vous ai fait un peu le topo sur la pêche à le filet dérivant.
Oui.
Le filet dérivant qui était la pêche à la sardine, la pêche au maquereau et la pêche au thon, quoi. C'est après que dans les 60, ça a été modernisé, on a fait la pêche au lampareau. Voilà.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
À votre service.
Et merci pour le poème sur la belote. C'était inattendu, mais merci beaucoup.
Ainsi s'achève cette rencontre entre poète et pêcheur enregistrée sur une terrasse qui domine le port de Sète. C'était en juillet dernier pendant le festival de poésie Voix vive de Méditerranée en Méditerranée. Merci à Georges Drano pour l'animation et la présentation de cet entretien entre Monsef Gachem, poète tunisien, et Raphaël Albano, pêcheur sétois. Pour information, la troisième édition du festival de poésie Voix vive de Méditerranée en Méditerranée à 7 se déroulera cette année du 20 au 28 juillet prochain. C'est la fin de l'émission L'eau à la bouche. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir.